Tourangelle, Tourangeau, vous écoutez Radio Campus Tours, bienvenue sur Littérature, l'émission qui vous fait découvrir les librairies indépendantes de notre belle ville ligérienne. Venez avec moi et osez pousser les portes de ces univers merveilleux. Petit erratum, chers auditeurs, cette interview a été tournée avant la période du confinement. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par Monsieur Renouf dans sa librairie Lire au Jardin. Merci Monsieur Renouf, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que c'est Lire au Jardin ?
Lire au Jardin, en fait, c'est une librairie qui, au départ, était tournée essentiellement sur le végétal. Donc, parce que le végétal, c'est un élément du vivant très très important dans nos vies, en fait. Sans le végétal, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis, progressivement, puisque ça fait 15 ans qu'on est ouvert, en fait, on a élargi, bien sûr, le champ des thématiques, parce que, bon, voilà, on est un peu curieux de nature. Et c'est vrai qu'on est maintenant un peu sur les savoir-faire manuels, par exemple. On peut avoir des choses aussi en jeunesse, on peut avoir des choses aussi sur les animaux, forcément. Et puis, sur tout ce qui touche aux problématiques environnementales, le réchauffement climatique, les pesticides, etc., etc.
En se baladant devant votre vitrine, on voit que vous êtes très spécialisé dans tout ce qui est collapsologie, écologie, permaculture, entre vos livres et vos conférences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire du lieu ?
En fait, l'histoire du lieu, c'est assez simple. Moi, j'étais salarié avant. J'étais en fait principalement employé par des structures associatives qui travaillaient dans le secteur du jardin. Principalement. Mon dernier emploi avant d'ouvrir la librairie, c'était donc documentaliste au Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire. Et du coup, j'ai été licencié en 2004 et en fait, je me suis dit à ce moment-là, c'est peut-être le moment ou jamais de créer un lieu à moi, en fait, indépendant. Et voilà, donc je suis parti sur l'idée d'une librairie parce que moi, ma formation, c'est documentaliste. Donc je suis déjà dans le monde du livre, déjà depuis le départ. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
On peut voir sur votre vitrine beaucoup d'annonces. Vous faites beaucoup de rendez-vous d'auteurs et d'ateliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ?
Alors, rendez-vous avec des auteurs, peu, parce que c'est très compliqué d'organiser des signatures. Et puis, c'est un peu embêtant toujours de faire venir quelqu'un pour ne rencontrer que quelques personnes, même si c'est toujours plaisant, c'est pas le souci. En fait, on en organise quelques-unes ici, mais souvent, c'est en partenariat avec des structures extérieures. Notamment, dernièrement, c'était avec Attac sur la venue de Geneviève Azam pour son livre qui s'appelle « Être à la terre ». Et en fait, c'est plus facile d'organiser des signatures comme ça, en tout cas parce qu'il y a toujours en général une conférence auparavant. Je trouve que c'est bien de laisser parler l'auteur, quoi. Il y a toujours des choses intéressantes à faire passer comme ça. Et puis en ce qui concerne les autres activités, c'est-à-dire les animations, les petites conférences qui sont organisées ici, en fait, on ne cherche pas absolument à organiser quelque chose, mais c'est vrai que les rencontres avec des gens qui passent ici font que ça s'organise tout seul finalement. Il n'y a pas de... Moi, je ne cherche pas à remplir le carnet, absolument. Par exemple, on a un cycle de conférences sur l'olfactorie. Thérapie, par exemple, avec Catherine Gillette, qui est diplômée de cette profession. Et voilà, elle organise une fois tous les mois, elle va organiser une petite conférence sur ce que c'est que les huiles essentielles et comment on peut les utiliser correctement sans intoxiquer.
La librairie est toute en longueur, les étagères pleines de livres jusqu'au plafond et surtout beaucoup de plantes et de cadres parce que vous exposez des artistes. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'exposition du moment ?
Alors là, c'est vrai que pour les expositions, c'est un peu pareil que pour les interventions dans la librairie, c'est-à-dire on ne cherche pas absolument à exposer. Bon, il se trouve que ça se fait un peu tout seul, les gens viennent et puis voilà, parlent de ce qu'ils font et c'est toujours, je trouve que c'est bien, ça permet à des personnes qui n'ont pas l'habitude forcément d'exposer, de proposer leur création. Donc voilà, je trouve que c'est, pour nous c'est agréable. Pour les personnes qui peignent ou qui sculptent, voilà, c'est la possibilité de montrer un peu ce qu'ils font. Donc là, pour l'instant, on a une petite exposition de pastel, c'est pas une technique qu'on voit souvent en exposition. Les gens sont assez séduits de ce qui est proposé et donc là, c'est une artiste qui s'appelle Chantal Méquies. Donc là, son surnom d'artiste, c'est Lou.
Est-ce que dans votre librairie, nous pouvons trouver des livres anglophones ou d'autres langues ?
Non, pas vraiment. Nous, on est vraiment dans le français. Après, comme on a une partie d'occasion, c'est vrai que de temps en temps, on peut avoir des livres en anglais. Mais bon, c'est pas du tout notre vocation. Il y a une librairie très spécialisée là-dessus.
Vous parlez des livres d'occasion, c'est votre projet sur votre site internet que vous nommez La Cabane ?
Alors oui, on a deux locaux en fait, la librairie en tant que telle, qui est ouverte tous les jours, et puis à côté, on a un local qui abrite des ouvrages d'occasion. J'ai jamais voulu faire de séparation entre les deux. Pour moi, un livre, c'est un livre, peu importe qu'il soit d'occasion ou neuf. À partir du moment où il répond à une question d'un lecteur, je veux dire, il n'y a aucune importance. Il y a des livres qui existent depuis 20 ans, 30 ans, des fois, qui sont tout à fait pertinents encore à l'heure actuelle. Donc, qu'il soit d'occasion ou neuf, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est juste notre façon de voir les choses. Je sais que c'est pas partagé par tous les libraires. Moi, je suis pas pour qu'on produise absolument du livre à tour de bras parce qu'il faut faire tourner la consommation. S'il y a des livres qui existent déjà en occasion et qui pourraient répondre à la question, autant les les utiliser, quoi. C'est normal.
Quel est votre best-seller pour le moment en vente?
Voilà, ça c'est la question un peu rigolote, parce que, en fait, le livre que l'on a plus vendu ici et à l'extérieur, parce que sinon on n'aurait pas pu, c'est un petit livre de poche qui s'appelle Dialogue avec mon jardinier. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, on est aussi, partenaire, entre guillemets, d'une compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie Les Chapets Belles, et qui a monté donc une pièce de théâtre autour de ce livre de Henri Cueco, et qui est vraiment très très bien. Elle a beaucoup tourné cette pièce, elle avait même passé à Avignon, etc. Et donc, à chaque fois qu'ils ont monté la pièce, finalement, on a vendu des livres, quoi. Donc forcément, et on continue. Je le conseille d'ailleurs, ce livre, très très bien.
Et dans votre magasin, vous avez à peu près combien de références de livres?
Voilà, c'est pas évident à répondre comme ça. Moi, je dirais qu'on est dans les 4. Alors après, il faut faire attention parce que les références présentes en magasin, c'est une chose, et c'est la partie visible en fait de ce que nous on peut conseiller aux personnes. On a aussi plein de références à la fois dans notre tête et puis dans l'ordinateur qui sont pour nous importantes. Mais bon, évidemment, compte tenu de la place, l'exiguïté de la librairie, on est obligé de choisir ce qui est présent, quoi.
Comment vous faites le choix des livres qui rentrent ou non dans votre librairie?
Alors ça, c'est une très bonne question, parce que c'est pas facile. Faut savoir que, je pense que les autres libraires le disent aussi, on n'a pas vraiment le temps de lire beaucoup, parce que bon, malheureusement, la librairie, c'est aussi beaucoup de gestion, et beaucoup d'accueil aussi, quand même, hein, parce qu'on est là pour renseigner les personnes qui passent. En fait, le choix, il se fait par différents intermédiaires. Il y a, bien sûr, il y a les représentants qui passent. Nous, on n'en voit pas énormément, parce qu'on est une petite librairie, donc on n'intéresse pas les très gros, évidemment. Après, on a aussi le canal médiatique, c'est-à-dire tout ce qui passe... la radio, la télévision, on a des privilégiés forcément des radios comme France Culture ou France Inter, parce que c'est là où les livres les plus intéressants sont quand même cités. Après, moi c'est vrai que la grande librairie, j'ai tendance à jeter un œil de temps en temps quand même si c'est pas toujours notre domaine. Et puis après, j'ai envie de dire, le plus important, c'est nous, c'est notre curiosité dans les catalogues, aller fouiller un peu à droite à gauche. On a des éditeurs forcément fétiches, je veux dire, parce que ça correspond à notre façon de penser. Et puis il y a aussi, il faut pas le passer sous aussi. Silence, il y a aussi les gens qui passent, quoi, parce que finalement, ils arrivent à nous signaler des livres que nous, on n'a pas vu passer et qui parfois sont fort intéressants. Donc voilà, avec tout ça, on arrive à faire un choix et on en rate sûrement beaucoup. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Je pense que ce que les gens apprécient ici, c'est le choix, justement. On est vraiment très sélectif. Il y a des choses qu'on ne peut pas vendre, clairement, que ça ne correspond pas à nos lecteurs et lectrices. Donc du coup, c'est un choix délibéré. Mais je crois que toutes les librairies choisissent de toute façon, donc on ne peut pas avoir tout, c'est impossible. Il y a une production énorme, quoi.
Est-ce que vous avez une boutique en ligne?
Pas réellement, parce que c'est très compliqué, et puis de toute façon, quand on connaît un peu le système du commerce en ligne, on n'arrive jamais en tête de liste. C'est bien évident que si vous cherchez un livre sur Internet, vous allez avoir une page avec les plus grosses plateformes qui existent, et là, impossible de concurrencer ces plateformes, bien entendu. Bon, nous, on a sur notre propre site qui est fait maison, on a des listes qui sont téléchargeables. Alors, si les gens ont la patience de lire les listes, tant mieux. Puis, on a réparti les ouvrages neufs sur des listes thématiques. Bon, voilà, c'est une autre façon de procéder. En revanche, on est également sur un autre site qui est un site de libraire indépendant d'occasion, qui s'appelle Livre Rare Book, que je conseille à toutes les auditrices et auditeurs. Parce qu'en fait, l'avantage de cette plateforme-là, c'est que vous êtes en contact direct avec le libraire. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas d'intermédiaire. Je ne veux pas citer des plateformes concurrentes, mais là, c'est vraiment les plateformes à privilégier, je pense, pour acheter des livres d'occasion. Nous, on met une partie de notre stock sur cette plateforme, quoi.
Sur votre site internet, j'ai vu que vous aviez un thème de l'année. Est-ce que vous pouvez nous révéler celui de l'année 2020?
Eh ben, pas de chance, il n'y a pas de thème cette année. C'est parce qu'en fait, les thématiques, on a joué à ça pendant quelques années, parce que c'était rigolo. Puis c'est vrai que l'année dernière, on avait fait les mythologies, c'était un peu notre dada, là, en 2019. Et puis finalement, on a un peu laissé tomber l'histoire des thématiques cette année. Les thématiques, c'était pratique parce que ça permettait à la fois de mettre en avant des ouvrages sur des sujets particuliers et puis en même temps d'organiser des manifestations autour de ça. Bon, après, c'est assez compliqué quand même parce que il faut toujours être en train de relancer les gens. Et puis cette année, on fait une petite pause, on va dire, sur la façon de travailler.
Derrière vous se tient une grainothèque. Est-ce que vous pouvez en parler un peu à nos auditeurs?
Alors, la Grainothèque, elle existe depuis déjà, je sais plus exactement, mais moi, je dirais 7-8 ans, sans doute. En fait, à l'époque, on avait créé, avec des amis, un collectif qui s'appelait les Pies Vertes et les Pousses Verts. Un petit truc autour de la plante sauvage en ville, en fait. Comment repérer ce qui pousse de façon spontanée dans nos ruelles et nos rues. Et puis après, on a créé cette histoire de Grainothèque. Donc, l'idée, c'est que les gens viennent déposer des graines qu'ils ont en surplus, qu'ils ont récoltées, soit sur leur balcon, soit dans leur jardin. Et puis, soit ils en prennent, soit ils n'en prennent pas. Et puis après, d'autres personnes peuvent se servir, en fait, de façon complètement autonome. Nous, on s'en occupe assez peu, finalement. Ça fonctionne tout seul. Les gens savent que ça existe et que donc, voilà, ils peuvent apporter et prendre éventuellement des graines. Alors après, ça, du coup, ça nous a mis en position de spécialistes, entre guillemets, de la grainothèque. Du coup, on a des médiathèques qui nous appellent pour inaugurer des grainothèques. Notamment, il y en a une à Saint-Avertin, il y en a une à la médiathèque de la Riche aussi. Bon, après, il y en a plein. Il y a tout un réseau qui existe autour de la graine.
Quels sont les projets futurs dans votre librairie que vous aimeriez mettre en place, même dans vos rêves les plus fous ?
Oui, alors ça c'est une question un peu difficile parce que vu que j'approche de la retraite, ça est un peu plus compliqué de faire des projets ambitieux maintenant. Je pense que déjà c'est de continuer à ouvrir la librairie tous les jours, c'est pas si facile que ça non plus. Être libraire indépendant, ça pose quand même quelques contraintes en matière financière. Bon, les objectifs actuellement, c'est essentiellement ça, c'est quand même de continuer de faire vivre la librairie et puis de continuer à maintenir les liens qui existent déjà un petit peu avec les associations, les organisations locales, parce que je pense qu'on est reconnu pour avoir un certain nombre de livres référents sur la question de l'environnement, même en matière d'organisation sociale aussi, parce que dès qu'on touche à l'environnement, forcément on touche à l'aspect politique des choses, on n'est pas simplement fleurs bleues et petits oiseaux. Donc je pense que ça c'est déjà, ça peut paraître assez léger comme ambition, mais finalement c'est pas si évident que ça quand même de faire ça.
Après avoir découvert les incroyables trésors que cachait cette librairie, nous allons en découvrir un peu plus sur la vie de Monsieur Renouf. Mais avant ça, je vous propose une petite pause musicale 100% tourangelle avec Thé Vanille et leur titre Philemon's Share. Je vous conseille vivement de découvrir l'énergie de ces trois acolytes directement en concert.
What is
Pour les auditeurs qui rêveraient d'avoir leur propre librairie, est-ce que vous pouvez leur donner des conseils ou des recommandations ?
Pas facile ça comme question. Hein. Parce que, en fait, moi je veux pas décourager les gens, hein, de toute façon c'est sûr. Si on a envie de faire quelque chose, faut le faire. Bah quitte à voilà, quitte à se planter comme on dit, mais en fait bah des conseils, je sais pas, moi je pense que faut être passionné quoi, parce que sinon ça peut pas fonctionner, ça c'est certain. J'ai envie de dire une librairie c'est pas que du livre quand même quoi, c'est aussi beaucoup beaucoup de choses autour, beaucoup d'animation, de relations. Bon, après voilà, il faut trouver un bon lieu, ça c'est sûr, et ça c'est pas le plus facile parce qu'on sait qu'en ville c'est compliqué. Après on peut faire une librairie en dehors de la ville, mais alors là, il faut vraiment être itinérant, sinon ça fonctionnera pas, c'est sûr. Moi, j'ai été conseiller d'orientation dans ma vie, hein, pendant la première partie de ma vie professionnelle. Si on a vraiment envie de faire, qu'on est motivé, il faut le faire, de toute façon. Après, bah voilà, le contexte, il est ce qu'il est, quoi. Il peut être très bon à un moment donné, et puis pas bon après, mais puis il faut tenir, quoi. Faut se dire que, voilà, il y a toujours moyen de faire fonctionner une librairie ou autre chose, hein, d'ailleurs.
Vous avez l'air d'avoir eu 1000 vies. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de votre parcours professionnel ?
Ah, ça c'est la question, franchement là ça fait, je me dis que je suis un peu âgé là du coup. Alors j'ai commencé, moi, ma formation c'est documentaliste, hein, c'est mon, on va dire, mon fil conducteur dans toute ma vie, parce que j'ai presque envie de dire qu'en tant que libraire je suis encore un peu documentaliste quand même. Je crois qu'il y a trois choses qui m'ont passionné dans la vie, c'est le livre, la formation et puis tout ce qui touchait à la nature, ça c'est certain. Et après autour de ça, moi j'ai un peu traficoté ma vie professionnelle en fonction des possibilités, donc j'ai commencé à travailler comme conseiller d'orientation. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, dans un centre d'orientation, il y a nécessairement de la documentation. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis retrouvé à conseiller des jeunes, des adultes sur leur direction professionnelle. C'était vraiment passionnant aussi. Voilà, beaucoup de relations, hein, pour le coup. Et après, je suis devenu documentaliste dans une société d'horticulture à Paris. Voilà, donc là, j'ai créé le centre de documentation, en fait, à l'époque. Et puis après, je suis passé au Festival des Jardins à Chaumont-sur-Loire, où là, je suis resté une dizaine d'années. Pour ceux qui connaissent le Festival des Jardins, là, maintenant, c'est une grosse institution. Donc voilà, on sent vraiment l'organisation professionnelle, etc. Moi, à l'époque, c'était pas du tout ça. C'était vraiment une association et on était d'abord dépendant des financements publics. Et puis voilà, il y avait beaucoup de bricolage quand même à l'époque. Hein. C'était un plus... Bon, c'était aussi ce qui nous amusait, je pense. Et puis voilà, et puis après, à la librairie.
Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager ?
Moi, je n'avais pas l'impression de travailler, quoi, en fait. C'est ça qui est intéressant. Je descends et je vais ouvrir ma librairie. Je sais que je vais rencontrer des gens sympas. La plupart des personnes qui passent, soit elles sont curieuses et puis elles ne savent pas ce que c'est exactement comme lieu. Parce que, elles ne sont jamais rentrées. Et puis, on a aussi tout un public de personnes vraiment fidèles qui viennent régulièrement et avec qui on partage plein de choses. Hein. Enfin, je veux dire, ça va jusqu'à l'amitié parfois, parce que ce sont des gens qui viennent depuis longtemps. Hein. Donc, franchement, alors là, après, les anecdotes, j'ai presque envie de dire, il y en a tous les jours, quoi, parce que c'est... Chaque fois, on va discuter de quelque chose et bon, c'est toujours intéressant. Ça reste qu'il y a quand même l'humain là-dedans qui est quand même très 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 présent quoi.
Vous avez expliqué que vous n'avez pas énormément le temps de lire, mais vous avez certainement un livre de chevet en ce moment.
Oui, on n'a pas trop le temps de lire, mais on lit quand même. Hein. Faut pas, on peut très bien aller à l'extrait inverse, c'est-à-dire à la fois on lit pas toute la journée, mais bon, le soir on lit, le matin on peut lire, de temps en temps la librairie aussi, on s'autorise quelques lectures à voix haute parfois. Et là pour l'instant, je suis en train de lire le livre d'Isabelle Attard qui s'appelle « Comment je suis devenu anarchiste ». Très bon livre, comme elle l'explique très bien dans son livre, le mot anarchiste, anarchisme est complètement dévoyé. Enfin, on ne pense jamais dans le bon sens. On pense toujours au chaos, et alors c'est pas du tout ça, c'est une organisation politique sans pouvoir, en fait, hein. Donc voilà, c'est l'ordre sans pouvoir. Et elle explique son parcours, parce que Isabelle Attard, elle était députée écologiste, et finalement, elle a expliqué avoir découvert cette forme d'organisation politique, finalement, et s'y être très, vraiment intéressée pour comprendre, qu'est-ce que c'est que l'anarchisme, en fait. Et du coup, elle explique tout, et moi, je trouve que c'est un très bon livre pour s'initier à ça, quoi. C'est-à-dire, ça permet de découvrir un peu, d'abord, les quelques zones dans le monde où fonctionne un peu l'anarchisme, notamment chez les Kurdes ou au Chiapas, par exemple, au Mexique. Et c'est réellement passionnant. Hein. Après, c'est une bonne introduction à l'anarchisme, je trouve. Il faut vraiment le lire, son livre, quoi. C'est très bien.
Est-ce que vous pouvez nous indiquer l'adresse et les horaires de votre librairie ?
Alors, l'adresse, c'est 5 rue Constantine. Donc, la rue Constantine, c'est la petite rue qui prolonge la rue Marceau jusqu'au quai. Et puis, nos horaires d'ouverture, nous, c'est le lundi après-midi. Donc, c'est 12h30, 19h30. Et puis, tous les autres jours, sauf le dimanche, c'est donc de 10h à 19h30.
Merci beaucoup, Monsieur Renouf, pour nous avoir accordé cette interview. Maintenant que vous connaissez ce petit jardin secret, au retour des quais ou en allant à plume, n'hésitez pas à faire un crochet par lire au jardin. Même si vous n'êtes pas particulièrement lecteur, la librairie vaut le coup d'œil. Restons dans l'ambiance jardin avec l'interview de Monsieur Marmiroli pour la présentation de son livre « Jardin et Val-de-Loire » aux éditions Actes Sud. Aujourd'hui, nous rencontrons Monsieur Bruno Marmiroli qui va nous parler de son livre « Jardin et Val-de-Loire » aux éditions Actes Sud. Bonjour Monsieur Marmiroli.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs et aux auditrices ce que c'est ce livre ?
Alors, c'est une coécriture, c'est même plus qu'une coécriture, puisqu'on est plusieurs à l'avoir écrit, mais enfin, disons qu'il y a Rémi Deleplan qui est moi, qui avons essayé d'organiser effectivement une proposition de découverte du Val-de-Loire, pas très originale, parce que je pense que c'est quand même un territoire qui est très connu pour ses jardins. On a essayé de creuser un peu la nature du lien entre effectivement ce Val-de-Loire et ses jardins, le fameux jardin de la France. Sur quoi reposait-il ? C'était un peu la question qu'on s'est posée, et l'idée était de proposer une déambulation au fil du fleuve et de ses affluents.
Est-ce que vous pouvez parler un peu de l'idée du projet, s'il vous plaît ?
Oui. L'idée du projet, elle vient de deux trajectoires différentes. La mienne, alors, en tant que paysagiste, concepteur anciennement de jardins, et puis celle de Rémi Deleplan, qui est lui de formation historien, qui travaille à la mission Val-de-Loire, et qui avait monté il y a quelques années, pas plus, en 2018, une saison jardin. Donc en mettant toutes nos envies sur la table, on s'est aperçu que peut-être que l'idée des jardins de la France méritait quelques explications, et en tout cas méritait au moins qu'on donne envie à des visiteurs, lecteurs, lectrices, curieux de nature, d'aller explorer un peu la nature du lien.
Effectivement, vous avez parlé de la mission Val-de-Loire. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est ?
Alors, la mission Val-de-Loire, c'est une institution, c'est un syndicat mixte interrégional qui a en charge la connaissance et la valorisation des critères de l'inscription du Val-de-Loire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est une petite équipe avec une lourde tâche qui est effectivement à la fois de rendre compte, de suivre les travaux de recherche sur la connaissance des paysages et des patrimoines du territoire, et puis de faire en sorte que ce soit mieux connu, diffusé, partagé auprès de tous les publics. Donc ça, c'est vraiment l'essence même de la mission.
Alors quand on regarde un peu, on remarque que vous avez eu 1000 vies avant d'arriver à la mission Val-de-Loire. Qu'est-ce qui vous a amené à étudier la Loire ? Parce que vous êtes allé à Bethléem, en Israël, plein de choses comme ça ?
Oui, j'ai un peu voyagé, mais comme beaucoup, hein, je suis pas le seul, ça fait partie des aptitudes ou des possibilités qu'on a. Et ces voyages m'ont permis effectivement d'aller explorer d'autres territoires et surtout de rencontrer des archéologues qui travaillaient toujours sur un angle quand même qui est un angle qui est propre à cette discipline de l'étude de la morphologie des paysages pour essayer de les comprendre. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Une histoire des paysages, je suis passé par l'histoire des techniques, donc des paysages plutôt de la pré-industrie ou la proto-industrie, puis je suis revenu en arrière avec plutôt des paysages archéologiques du Proche-Orient, effectivement. Et c'est au Proche-Orient que j'ai rencontré, par hasard pratiquement, Jean-Paul Pigeat, qui était, puisqu'il est décédé, le fondateur du Festival des Jardins de Chaumont. C'est grâce à lui que à la fois j'ai pu passer de l'étude des paysages à la pratique du jardin, et que j'ai pu surtout arriver en Touraine.
Est-ce qu'on parle toujours de la Dark Loire ?
La fameuse Dark Loire. Mais ça correspond un peu à un pan méconnu du territoire, qu'on doit, en tout cas, moi je pense que la mission a aussi à explorer cette facette-là, c'est-à-dire en quoi est-ce que finalement ces territoires, dans ses aspérités, ne sont pas exclusivement dévolus à la valorisation des patrimoines, mais qu'il y a aussi une vie qui s'est installée comme partout, et heureusement, et que cette vie passe par des usages, des aptitudes, des savoirs, des métiers, des pratiques qu'on a peine à étudier, en tout cas qu'on n'a pas encore vraiment étudié, qu'on n'a pas versé dans l'espèce de creuset qui constituerait le patrimoine commun.
Revenons au livre, comment s'est organisée la création d'un tel livre ?
Alors c'est un travail de longue date, parce qu'il s'inscrit dans une collection plus large que je suis avec Actes Sud, avec une éditrice que je connais depuis longtemps, Aude Gros de Belair, qui est éditrice chez Actes Sud et qui est elle passionnée d'archéologie et d'histoire. Et donc on s'est retrouvé dans l'idée de déplier en quoi le jardin peut amener finalement une connaissance technique, une acuité environnementale, une aptitude culturelle, une ouverture aux autres, au partage. Et on avait donc décliné cette collection qui s'appelle Jardin d'hiver. Et donc ça, c'est le Jardin et Val-de-Loire, c'est le troisième volume. J'espère qu'il y en aura bien d'autres. Mais l'idée, c'est de mettre le jardin au centre d'une lecture possible du monde.
Qu'est-ce que vous avez comme livre sur votre table de chevet en ce moment ?
Question piège. Alors, j'ai un livre de Camille de Toledo, Le être et le boulot. Très bien, Camille de Toledo, un écrivain fantastique. Je pourrais pas dire autre chose parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, dont je suis l'actualité littéraire. Donc, voilà, et qui travaille beaucoup aussi sur ces questions environnementales, sur ces questions de crise climatique. Puis, je viens de terminer, un livre de Nastasia Martin qui s'appelle Croire aux fauves, qui est une expérience anthropologique étrange en Sibérie.
La question bonus. Quel est votre jardin préféré dans cette sélection ?
Alors, c'est une question qui m'a été posée précédemment. Alors, je vais répondre la même chose, c'est-à-dire qu'il y en a deux que je trouve intéressants parce que moins connus et parce que pour des raisons à la fois soit historiques, soit poétiques, je les trouve passionnants. C'est le domaine de Talcy, donc qui se trouve au nord de Blois, et puis le jardin du Plessis-Sanières, qui se trouve donc dans le village de Sanières, qui est un lieu absolument incontournable.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci pour votre écoute, et on se dit au mois prochain pour une nouvelle librairie. À bientôt.